Bonjour à tous. Des départs de la Toussaint sur fond de grève SNCF et d'augmentation du prix de l'essence à la pompe. De nombreux Français prennent aujourd'hui le chemin des vacances. Reportage dans un instant sur la route du Sud-Ouest. À la recherche d'un nouveau souffle pour Anne Hidalgo et le Parti Socialiste à Lille, la candidate PS rassemble la famille PS pour son premier meeting et donner un nouvel élan à la campagne. À la une également, l'indemnité inflation n'est pas une mesure électoraliste. Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, balaye ce matin les attaques. Et aux États-Unis, enquête sur une tragédie. L'acteur américain Alec Baldwin s'est dit dévasté après avoir tué accidentellement une femme de 42 ans sur le tournage d'un western au Nouveau-Mexique. La météo, assez classique. Nuages au nord, soleil au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Des vacances de la Toussaint attendues et qui vont faire du bien. Besoin de s'évader cette année après de longs mois de restrictions. Les professionnels du tourisme estiment que les réservations sont supérieures à celles d'avant la crise du Covid. 14 millions de personnes ont réservé leurs vacances. Des congés qui pourtant démarrent parfois avec une grimace, grève à la SNCF et pour les automobilistes, le prix du carburant à la pompe toujours plus cher. Luc Chemla s'est rendu sur une aire d'autoroute dans l'Essonne juste avant le péage de Saint-Arnoul, direction Bordeaux.
Qu'il est douloureux, le passage à la pompe pour les vacanciers.
Je m'étais pas rendu compte du prix, là, je viens de le regarder. J'avoue que ouais, ça fait mal, ouais. Ça fait mal, ça tape.
Quasiment 2 euros, par exemple, le litre de sans-plomb 98 sur cette aire d'autoroute de l'A10. Je n'ai jamais payé aussi cher, déclarent certains automobilistes. Jean-François, lui, est consterné. Il est parti chercher ses petits-enfants à Paris et rentre avec eux à Bordeaux pour les vacances.
C'est honteux, ça fait mal au ventre, hein. J'ai même pas mis, voilà, 50 litres, 90 euros. Ça fait un caddie pour manger pour 2 ou 3 semaines. Voilà, ça fait cher le voyage.
Mais malgré ce coût, Jean-François l'affirme, il n'a pas le choix.
L'avion, 250 euros. Le TGV, c'est 175 euros, aller-retour. Voilà. La voiture.
Et beaucoup d'automobilistes rencontrés le disent, c'est aussi bien plus facile pour voyager avec des enfants en bas âge. Alors vu les prix, certains optent pour le covoiturage, d'autres, fatalistes, vont amputer le budget des vacances. C'est le cas de Corinne, cette nordiste part en famille dans l'Aveyron.
Ça grimpe, donc forcément il faut diminuer quelque chose, donc faut faire l'impasse sur un ciné, une sortie pour la piscine avec les enfants. Ouais, faut qu'on fasse attention, qu'on compte.
Compter, mais aussi profiter, et tous le disent, vu la période actuelle, les vacances vont faire beaucoup de bien.
Et ceux qui ont choisi le train en direction du Sud-Ouest craignent de rester à quai en raison d'une grève des conducteurs des TGV Atlantique. 2 TGV sur 10 supprimés aujourd'hui, 1 train sur 3 demain. Un nouvel appel à la grève a été lancé pour le week-end prochain. L'intersyndicale CGT Cheminots, Sudrail et CFDT Cheminots dénoncent l'échec des négociations sur les conditions de travail et les rémunérations. Les discussions n'avancent pas, explique Éric Meyer, secrétaire général de Sudrail, au micro de Martin Delacoux.
Aujourd'hui, les congés, notamment des conducteurs TGV, sont systématiquement refusés parce qu'il y a un sous-effectif chronique. Bien souvent, quand ils commencent leur journée de service, ils savent pas trop à quelle heure ils vont la terminer. Et ça, c'était des conditions de travail qui avaient été acceptées par les cheminots dans le cadre de la crise pandémique. Mais maintenant qu'on est en train de tourner la page, ils aimeraient quand même bien pouvoir revenir à des conditions de travail normales. La direction a eu 6 semaines pour se mettre autour de la table. Elle a attendu les derniers 48 heures avant le début de la grève pour dire « ah ben, il faut qu'on se mette autour de la table ». Voilà, c'est pas l'intersyndical cheminote qui porte la responsabilité de la latte et qui porte la responsabilité de la grève, c'est clairement la direction. Aujourd'hui, les avancées sont pas de nature à faire stopper le conflit. Il faudra sûrement s'attendre à avoir une autre séquence la semaine prochaine si la direction ne revient pas sur ses projets.
Éric Meyer, secrétaire général de Sudrail. Mobilisation anti-pass et gilets jaunes également. Un nouveau week-end de contestation s'organise. Comme chaque samedi depuis des mois, même si ces dernières semaines, la mobilisation a été faible. Aujourd'hui, 60 d'appels à se rassembler ont été relevés sur les réseaux sociaux par la police. Jeudi dernier, face à l'augmentation des prix, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le versement d'une indemnité inflation, un chèque de 100 euros pour tous les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois. Et pour répondre aux nombreuses critiques sur une mesure jugée électoraliste, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a balayé ce matin les attaques.
D'abord, je pense qu'il faut être bien clair, tous ceux qui nous expliquent que ce serait de l'électoralisme sont assez ridicules et je leur propose d'aller voir les 38 millions de Français et leur dire que ça ne va pas les aider dans leur vie et qu'au fond, il ne faudrait pas le faire pour des raisons politiciennes. Pourquoi ces attaques et pourquoi cette mesure, d'abord, elle est bien ciblée? On observe deux choses. Tous les pays européens autour de nous font la même chose. Et ils la font pas parce qu'il y a des élections qui arrivent, ils le font pas parce que il y aurait des intentions cachées. Les suites de la crise sanitaire, économique que nous vivons a créé un choc soudain. Ce choc, il n'a pas été anticipé, il est vécu dans tous les pays occidentaux de la même manière et il appelle partout des réponses majeures. La deuxième chose, c'est que nous sommes très clairs. C'est une mesure d'urgence qui répond à un choc soudain. C'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, tous les économistes, tous les experts vous le disent, pour que nous puissions réagir précisément à une donnée économique.
Amélie de Montchalin avec Myriam Ankoua et Ersin Lebovitch. C'est le rendez-vous politique du week-end. À gauche, au Parti Socialiste, avec l'opération relance ou décollage pour Anne Hidalgo, dont la campagne peine à convaincre. Nouvelle étape aujourd'hui à Lille. Anne Hidalgo rassemble la famille socialiste pour un premier meeting destiné à la fois à rassurer son camp et pour donner un nouvel élan à sa campagne. La maire de Paris est créditée de 4 à 7% d'intention de vote, rétrogradée derrière l'écologiste Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Objectif aujourd'hui à Lille, afficher l'unité, finir les frondeurs, tous derrière Hidalgo, Antoine Gignot.
Terminer les querelles et les voix dissonantes, chacun doit prendre ses responsabilités, il faut de la discipline, lance un membre de l'équipe de campagne. Le premier enjeu du PS, c'est de donner une image unie, avec un millier de sympathisants qui viennent à Lille sur invitation, des entrepreneurs sociaux, des jeunes et quelques grandes figures du parti comme l'ancien ministre Bernard Cazeneuve ou Martine Aubry. La maire de Lille connaît Anne Hidalgo depuis 1997, c'est elle qui l'a fait entrer à l'époque comme conseillère au sein du gouvernement Jospin. Les socialistes tentent donc une nouvelle fois de s'appuyer sur leurs racines pour mobiliser. Ils promettent que la candidate à la présidentielle va dévoiler son projet de société, mettre en avant une gauche social-démocrate capable de rassembler, une nécessité au moment où plusieurs anciens du PS s'éloignent, Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lindemann, qui ont quitté le parti pour fonder la gauche républicaine et socialiste, soutiennent désormais officiellement Arnaud Montebourg. L'ancien ministre François Lamy rejoint les écologistes et les radicaux de gauche qui tiennent aussi leur convention aujourd'hui refuse pour l'instant de dire à qui va leur préférence.
Antoine Gignot, à l'étranger en Israël, le gouvernement annonce avoir placé sur la liste des organisations terroristes 6 ONG palestiniennes liées, selon l'État hébreu, au FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. 6 organisations non gouvernementales palestiniennes qui ont été placées sur la liste noire du ministère israélien de la Défense. Une décision qui a suscité la colère de nombreuses organisations internationales et les États-Unis demandent des explications. Sur place à Jérusalem, Michel Paul.
C'est la première friction de ce genre entre l'administration Biden et le nouveau gouvernement israélien. Sans concertation avec son allié principal, Israël indique avoir placé 6 ONG palestiniennes sur sa liste noire, notamment les organisations de défense des droits humains Al-Haq et Adamir. Le ministère israélien de la Défense les accuse d'être liés au FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, un groupe armé palestinien d'obédience marxiste. La décision israélienne a déclenché une réaction en chaîne et les critiques fusent de toutes parts. Chagai Elad est le directeur de Betzelem, une ONG israélienne qui défend les droits de l'homme dans les territoires occupés.
C'est un acte digne de régime totalitaire dont le but évident est de fermer ces organisations. Ce n'est pas un gouvernement de changement, mais plutôt un gouvernement qui perpétue une longue tradition d'un violent régime d'apartheid.
Les responsables israéliens affirment notamment que ces organisations bénéficient d'aides d'États européens et d'organisations internationales qui auraient été obtenues de manière frauduleuse. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
Alec Baldwin, l'acteur américain, se dit dévasté après avoir tué la veille Alina Hutchins, chef opératrice de 42 ans sur le tournage du western Rust au Nouveau-Mexique. Les enquêteurs et Hollywood cherchent toujours à comprendre ce qui s'est passé. La jeune femme a été tuée a priori accidentellement par Alec Baldwin avec une arme qui aurait dû être chargé à blanc. Le shérif du comté de Santa Fe mène l'enquête alors que le tournage a été suspendu. Un drame qui s'est produit malgré des mesures de sécurité drastiques en matière d'armes à feu dans le monde du cinéma. Loïc Piala.
Guillaume Delouche a travaillé sur la saga Fast and Furious et Jurassic World. Ce chef accessoiriste réputé ne sait pas ce qu'il s'est passé sur le tournage de Rust au Nouveau-Mexique. Mais il insiste, en matière d'armes à feu, les protocoles de sécurité sont extrêmement stricts dans l'industrie.
On traite les armes à blanc comme des armes réelles. Pour les armes qui sont opérées manuellement, ce sont des vraies armes. Donc elles sont gardées dans des coffres-forts. On ne peut pas mettre quelqu'un devant une arme à moins de 20 pieds, donc 6 mètres environ. On met des vitres en plexiglas, on couvre les chefs opérateurs et les machinaux avec des couvertures anti-feu.
La mort dramatique d'Alina Hutchins pousse Hollywood à se demander si les effets spéciaux ne pourraient pas remplacer les balles à blanc. La pratique existe déjà et elle a ses limites.
Quand un acteur tire avec un fusil de gros calibre, il y a beaucoup de recul, il y a de la fumée. Donc ça aide et ça ajoute quelque chose au jeu de cet acteur. Quand on lui donne à la place une arme en latex ou en plastique et qu'on rajoute l'effet de la balle plus tard en effet numérique, il y a quand même une nette différence.
D'après le Los Angeles Times, le matin même de l'accident, plusieurs membres de l'équipe ont quitté le plateau. Ils protestaient contre les conditions de travail et de sécurité sur ce western à petit budget, interprété mais aussi produit par Alec Baldwin. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Une affaire hors norme de blanchiment mise au jour par les gendarmes de Cambrai dans le Nord. Plusieurs millions d'euros sont en jeu. Derrière un mécanisme bien huilé, un homme de 43 ans fraudait le fisc depuis des mois. Les enquêteurs ont saisi à son domicile en début de semaine plus de 2 millions d'euros, lingots, pièces d'or et crypto-monnaies. Cette monnaie virtuelle, une affaire découverte par les enquêteurs parce que l'individu incarcéré pour délit routier a trop parlé lors d'une audition devant un juge. Le chauffard s'est vanté de gagner énormément d'argent. Le juge a ouvert une enquête. Sophie Morland.
Fin 2019, alors qu'il a été condamné pour conduite en état d'ivresse et sans points sur son permis, il se retrouve devant le juge d'application des peines pour étudier un aménagement de sa peine en jour amende. Et il lâche cette phrase « Je ne déclare pas tous mes revenus, sinon c'est la ruine ». Intrigué, les magistrats l'interrogent et ses explications sont confuses. Cet homme se dit courtier en bourse, il spécule avec les crypto-monnaies, ce qui est tout à fait légal. Mais ce qu'il est moins, c'est qu'il oublie de déclarer les bénéfices et c'est ce que les gendarmes ont découvert. Avec les sommes empoché, il commande sur le net des lingots d'or qu'il va ensuite avec sa femme revendre à l'étranger, en Belgique le plus souvent pour toucher de l'argent liquide. Ce système de blanchiment fonctionnait depuis des mois entre deux condamnations pour des délits routiers. Une affaire inédite pour le procureur de la République de Cambrai, habitué pourtant dans son secteur à voir passer beaucoup d'argent liquide alors que de nombreux trafics transitent par l'autoroute A2.
Le retour en grand de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, pour sa 47e édition, après une annulation l'an dernier pour cause de pandémie. La FIAC, installée dans le Grand Palais éphémère au Champ de Mars à Paris, présente cette année 174 galeries venues de 25 pays, peintures, sculptures. Mais au-delà de la FIAC elle-même, il y a aussi une programmation hors les murs, en particulier au Jardin des Tuileries. C'est gratuit et c'est l'occasion de découvrir des œuvres étonnantes dans l'espace public, Isabelle Pasquier.
Place Vendôme, un monumental dragon rouge volant de Calder est venu perturber Napoléon. Perturber poétiquement l'espace public, c'est le sens de ces installations au Jardin des Tuileries. La sculpture en bronze d'une femme en pleine chute, en hommage aux victimes du 11 septembre, une œuvre de l'Américain Eric Fischel. Et les drapeaux de Mehdi-Georges Laloux, la danse des sept voiles, sur les différents sens d'un même motif.
Cette installation est sur 115 mètres. On part d'un zélig, un motif moucharabier qu'on pourrait assimiler assez facilement à la culture arabo-andalouse ou à l'islam. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de jouer avec l'histoire du motif. L'étoile à huit branches qu'on retrouve ici sur les drapeaux, on la retrouve aussi dans les églises orthodoxes, mais aussi avant les trois religions monothéistes.
Juste à côté, suspendu à un arbre, une œuvre symbolique, la chrysalide en fil barbelé de l'artiste palestinien Abdulrahman Kateni. Et au bord d'un bassin, une étrange et sauvage sculpture en bois de Vincent Laval.
C'est en fin de compte un écho au territoire sauvage et amener la forêt, le végétal libre dans un jardin domestiqué, ça m'intéresse énormément.
Pour une expérience spatiale, la sculpture de Bettina Pucci, des glissières de sécurité d'autoroute rouge érigée à la verticale. Et pour une expérience dans le temps, vous pourrez mettre vos pas dans des empreintes de dinosaures.
Voilà la FIAC jusqu'à demain soir. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Un temps calme ce week-end avec, pour l'après-midi, beaucoup de bleu au programme, sous un ciel tout de même un peu plus nébuleux au nord de la Loire, mais sans réelles conséquences. Le Mistral et la Tramontane seront sensibles vers 60 km à l'heure et les températures stables par rapport à hier vont afficher un minimum de 12 à 14 sur le Grand Est. Il fera 15 en moyenne en Rhône-Alpes et au nord de la Loire, 16 à 19 de la Nouvelle-Aquitaine aux Pyrénées et 20 à 24 degrés sur les villes méditerranéennes. Demain, toujours du soleil, sauf sur la pointe ouest, où une perturbation très atténuée va donner un ciel maussade atteignant la Basse-Normandie et les Pays de la Loire en fin d'après-midi. Et puis, dans le golfe du Lion, les entrées maritimes seront souvent tenaces. En fin de nuit, les gelées blanches seront très répandues dans les terres de l'intérieur, mais l'après-midi, il va faire un peu plus doux qu'aujourd'hui.
Jean-Michel Golinski de Météo France.